Bonsoir à toutes et à tous, un nouveau numéro de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. En cette fin de novembre 2011, l'occasion nous est donnée de commémorer le centenaire du procès de l'affaire des Vermiro, une scandaleuse et choquante affaire de maltraitance d'enfants. Ce soir, nous avons devant le micro de Radion le plaisir d'accueillir Emmanuel Jouet. Bonsoir Emmanuel Jouet.
Bonsoir Yannick Petit.
Alors vous êtes l'auteur d'un livre paru aux éditions L'Œil d'Or dans la collection Mémoires et Miroirs, livre qui a pour titre La révolte des enfants des Vermiro. Alors on va bien sûr revenir sur cette affaire presque exemplaire dans la France du tout début du XXe siècle. Je me permets, Emmanuel Jouet, de vous présenter. Vous êtes docteur en sciences de l'éducation. Vous êtes l'auteur donc d'une thèse sur cette affaire de maltraitance des Vermiro qu'on situe entre 1905 et 1910 à Carré-les-Tombes, puisque les Vermiro est un lieu dit de cette commune du Morvan, et vous avez produit une thèse sur cette affaire de maltraitance. Vous avez donc réalisé de nombreux travaux de recherche. Vous êtes actuellement chercheuse en psychiatrie sociale au laboratoire de recherche de l'établissement public de santé Maison Blanche à Paris, et vous concevez notamment des programmes d'éducation pour la santé dans le champ de la santé mentale.
C'est exact.
Bon, au niveau des présentations, je pense que nous avons assez bien cerné qui était Emmanuel Jouet, notre invité ce soir. Alors, votre livre est absolument passionnant. J'allais dire passionnant, malheureusement, sur une affaire terrible de maltraitance d'enfants qui se situe vraiment au tout début du XXe siècle. C'est une recherche ethnologique qui nous ramène, bien sûr, à interroger le passé. C'est aussi une réflexion sur la notion de terre d'accueil du Morvan. Et puis, c'est aussi une manière de s'interroger, une fois de plus, sur le rapport qu'une société entretient avec ses exclus. Alors, Emmanuel Jouet, pourquoi avoir travaillé et comment cette affaire des Vermiro est arrivée, pardonnez-moi l'expression, entre vos mains?
C'est une histoire de famille. Les arrières petits-enfants de Mathieu Tamet, qui est un directeur d'une agence de la Seine à Avallon, et qui a été maire d'Avallon pendant la Première Guerre mondiale également, ont retrouvé, fin des années 90, son journal. Il a écrit un journal personnel de 5000 pages, et qui avait traversé le temps de la famille, l'histoire de la famille, sans avoir été connu, en fait. Et son arrière-petite-fille, Marie-Laure Lasvernias, a un jour recueilli ce journal et s'est rendu compte, en fait, de la pièce historique qu'il reconstituait. Il se trouve que cette femme est ma belle-sœur, donc je suis la compagne d'Olivier Lasvernias, qui est donc l'arrière-petit-fils de Mathieu Tamet. Et donc elle a commencé, et ils ont commencé tous les deux à s'interroger, à regarder un peu quelle était cette histoire familiale. Mathieu Tamet, dans son journal, qui est une vraie pièce historique incroyable aussi, qu'on trouve dans des cartons, sur des cahiers Clairefontaine, équivalent Clairefontaine, 36 cahiers, quelque chose d'extraordinaire. Donc raconte son histoire personnelle, familiale, mais il avait aussi à cœur de témoigner de l'histoire de l'agence de l'assistance publique à Avallon. Et donc il raconte ce qu'il passe, il parle de ses tournées, il les décrit très précisément au jour le jour, etc. Et donc il parle à un moment assez rapidement de cette affaire des Vermiro, d'une affaire qu'il appelle l'affaire Landrin, etc. Et Marie-Laure Lasvernias va aller petit à petit en 98-99 dans les familles nourricières du Morvan. Elle va venir ici à Carré-les-Tombes avec des extraits du journal de son arrière-grand-père, en leur demandant s'ils se souvenaient de Mathieu Tamet. Et elle a essayé elle-même de comprendre quelle était cette histoire et cette culture de l'assistance et de l'accueil dans le Morvan. Et elle avait aussi recueilli des extraits sur l'affaire des Vermiro. Et donc elle allait à Carré et dans la région en disant: est-ce que vous vous souvenez de l'affaire des Vermiro? Et on lui disait non, je m'en souviens pas, mais ma grand-mère me disait bien: si t'es pas ça, je t'irai au Vermiro, mais c'est tout. Et il se trouve que moi, personnellement, dans mon parcours de vie, je voulais à ce moment-là reprendre une thèse et des études. Je me suis dit qu'il y avait une matière. Donc, j'ai commencé à m'interroger sur cette histoire de maltraitance d'enfants, sur cet institut, parce qu'on en reviendra plus tard, mais c'était un institut éducatif et sanitaire, donc de placement d'enfants. Je me suis interrogée sur cette histoire, cette œuvre qui était une œuvre dans notre histoire de l'éducation. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment matière à en faire un objet de thèse. Voilà comment les choses ont démarré.
Alors, les Vermiraux, donc, rappelons à nos auditeurs que c'est un lieu dit sur la commune de Carré-les-Tons, oui. Donc commune située à quelques kilomètres d'Avallon, on est vraiment au sud de Lyon. Oui. C'est un établissement qui s'installe sur la commune, enfin qui voit le jour dès 1882.
Exactement.
Un établissement privé et qui est spécialisé, enfin qui a pour vocation de prendre en charge des enfants. C'est là, justement, Emmanuel Jouet, quel est le public d'enfants qui est accueilli au Vermiraux dans cet institut sanitaire et éducatif?
Alors, au tout départ, en 1882, c'est plutôt une... Donc, c'est un endroit où on soigne les enfants teigneux. Alors, ça peut être des enfants de famille, de la région, mais également des enfants de l'assistance publique. Donc, c'est une... D'abord, ça, c'était pas un véritable hôpital, mais c'était plutôt donc un endroit où on soignait donc les enfants teigneux. Il y avait quelques hôpitaux comme ça. Ça a été à un moment, quelques endroits, pardon, comme ça. Ça a été à un moment un dépôt de l'assistance publique, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise. Et puis, ça ferme. On trouve des traces de l'existence des Vermiraux dans les rapports des inspecteurs de l'assistance publique. Donc, ça fonctionne à peu près bien. Donc, pendant de 1880 à 1905-1907. À un moment, les propriétaires vont vouloir, en quelque sorte, élargir, on dirait aujourd'hui, élargir leur offre de services. Et donc, ils vont créer à ce moment, en accord et en appui avec un inspecteur de l'assistance publique de l'agence de la Seine-et-Marne et de la Seine-et-Oise, un institut qui sera cet institut éducatif et sanitaire et qui va recevoir essentiellement des enfants de l'assistance publique, comme les familles autour recevaient des enfants de l'assistance publique. Et par la suite, tout de suite, après, assez rapidement, corollairement, ils vont continuer cette expansion en demandant à recevoir des enfants de l'administration pénitentiaire, des enfants qui étaient plutôt malades. Donc au départ, ça garde toujours son œuvre sanitaire, même si ça s'élargit au fur et à mesure de l'histoire qui avance.
Mais est-ce que l'élargissement du public, parce qu'il y a aussi bien des dégénérés, des pupilles vicieux, des anormaux, des enfants donc, qui ont pu être condamnés par la justice, parfois pour simple vagabondage, est-ce que la diversité des publics d'enfants au Vermiraux et au site de la pierre qui vire, mais là c'était plutôt les filles, est-ce que c'est à l'origine aussi peut-être des problèmes, enfin d'une surpopulation en tout cas?
Au moment du procès, effectivement, moi, je parle d'un moment dans ma thèse de débarras d'enfants, parce qu'en fait, effectivement, il n'y avait pas de... On ne catégorisait pas, c'est-à-dire qu'il pouvait se retrouver au Vermiraux, effectivement, des enfants condamnés qui avaient peut-être pas forcément beaucoup de problèmes de santé et qui se retrouvaient avec des enfants très malades. Et il n'y avait pas de différenciation. C'est vrai qu'à un moment, il y a eu une volonté. En fait, je pense que les propriétaires se sont un peu laissés déborder sur leur capacité à accueillir autant d'enfants et
et d'offrir une offre
exactement.
Médicale individualisée,
exactement.
Adaptée à chaque enfant.
Exactement.
Quoi.
Surtout que leur objectif par la suite, c'est à dériver, puisque dans le bâtiment des Vermiraux, normalement, on recevait 80 enfants. Et en 1910, il y avait 120 enfants qui étaient présents. Ils ont assez rapidement compris quelle était la possibilité d'enrichissement de recevoir autant d'enfants sans avoir une volonté d'éducation réelle derrière les discours.
Et effectivement, il y a une véritable économie derrière ces instituts. En fin de compte, vous parlez d'économie de marché infantile local.
Oui, puisque en fait, Les Vermeiraux fonctionnaient. Donc c'est bien, c'est ça qui est important de voir. C'est un institut privé, donc qui n'a pas de véritable contrôle institutionnel, ni l'administration pénitentiaire, ni l'instruction publique, ni l'assistance publique n'a d'obligation réelle d'aller contrôler les enfants qui sont placés là. En tous les cas, d'aller contrôler les enfants individuellement, mais l'institution en tant que telle, elle ne dépend d'aucune de ces directions-là. Donc, on sait bien que l'assistance publique essayait de mettre en place des 4 tournées de contrôle par an pour chaque enfant. Sauf que là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la personne qui devait être celui qui contrôlait l'état dans lequel se trouvaient les enfants était aussi la personne qui en abusait, notamment de façon pécuniaire. Parce que ce qui se passait, c'est que un inspecteur qui s'appelle monsieur Landrin, qui était sous-inspecteur des agences de la Seine-et-Marne et Seine-et-Oise, plaçait des enfants au Vermeiraux, donc recevait des pensions pour s'occuper de ses enfants, et au lieu de s'en occuper ou de les éduquer, les replaçait chez les fermiers à prix moins important que le coût du marché de la main-d'œuvre du travail. Donc, quelque part, et comme le dit, on le retrouve dans le procès et dans le réquisitoire, Landrin touchait des deux mains. Il touchait à la fois l'administration pénitentiaire et des placements dans les familles en tant que commis, lorsque les enfants étaient commis.
Quelle est la tranche d'âge des enfants accueillis au Vermeiraux ?
On trouve les premiers, c'est 7, 8 ans, et ça peut aller jusqu'à 21 ans, parce qu'il y a des condamnés, donc qui sont des enfants qui ont été condamnés et acquittés, mais qui sont placés jusqu'à leur majorité. C'est une loi qui laissait les enfants dans des institutions jusqu'à leur majorité. Donc ça va jusqu'à 21 ans. Les enfants issus de l'assistance publique, normalement, à partir de 13 ans, étaient mis en pension. Était hors pension, pardon, donc était allé se louer dans les fermes ou en tant que commis ou aller dans des écoles, dans les écoles de l'assistance publique. Mais au Vermeiraux, bien souvent, ils étaient placés dans les familles alentour ou dans la région.
Nous nous retrouvons dans quelques minutes avec Emmanuelle Jouet. Elle est ce soir devant le micro de Radion et elle est l'auteur d'un ouvrage intitulé « La révolte des enfants des Vermeiraux » paru aux éditions de l'Œil d'Or. Nous écoutons Julos Bocan qui nous interprète un titre qui date de 1976, un titre de circonstance, Le Pensionnat.
Ces enfants qui ont souffert quand leur maman venait les voir par une après-midi très claire sur les fauteuils du parloir, qui auraient préféré peut-être, pour ne pas avoir mal au cœur, qu'elles ne viennent pas à cette heure troubler leur pauvre solitude. Ils se retrouvaient seuls le soir dans leur lit, dans le grand dortoir, et pensaient à elle en pleurant. Où es-tu donc, ô ma maman? Ils suçaient des sucres d'orge en caressant de leurs 10 doigts les bonbons et les chocolats qu'elle apportait dans sa panière. Ils sont des hommes maintenant, mais gardent au fond de leurs yeux si grands on ne sait quoi comme tristesse, un chagrin qui toujours reste. Leur maman s'en est allée, si peu de temps pour vous aimer, en nous tellement de regrets. Mon cœur est une pierre usée. Et ces années de pensionnat défilent par rang de 3 sur les chemins de leur mémoire. Les timides, on leur en fait voir. Ils sont toujours écorchés vifs. Leur vie où la tendresse niche est bousculée par la détresse. Humilié, faut que tu te redresses. Les caporaux leur bottent les fesses, les pions juste changés de veste. Dans la chambrée, c'est tout pareil, l'enfer sur la terre, c'est réel. Si le dos est un peu voûté, il a appris à encaisser. Je t'en supplie, dis-moi deux mots, souris-moi pour que je vive. Fasse le ciel qu'une dame au cœur tendre et diaphane, viens un soir dans ton dortoir pour t'aimer sans plus sursoir, qu'elle t'apporte mieux que le Pérou de la tendresse par-dessus tout, qu'elle soit un peu ta maman et ton ciel et ton firmament.
Toujours sur Radion, Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ce soir en compagnie d'Emmanuel Jouet pour son livre intitulé « La révolte des enfants des Vermiraux » paru aux éditions L'Œil d'Or dans la collection « Mémoires et miroirs ». Emmanuel Jouet, nous nous sommes quittés en évoquant la tranche d'âge des enfants qui étaient placés donc dans cet institut éducatif et sanitaire des Vermiraux. Enfin, on a du mal parfois à penser que c'est vraiment un institut éducatif et sanitaire quand on va voir les dérapages et les horreurs qui vont être commis sur des enfants innocents qui ne demandaient qu'à guérir, à être soignés et encadrés. Parlons un peu des infrastructures. Alors, il y a le site des Vermiraux, donc je rappelle, lieu dit de la commune de Carré-les-Tombes, donc à quelques kilomètres d'Avallon. Quand on lit, et vous reproduisez dans votre livre le descriptif dans des brochures institutionnelles, et vous parlez d'ailleurs d'utopie. On est dans un cadre de vie rustique, champêtre, l'air y est pur, les enfants sont occupés par de saines activités agraires. C'est presque pas tout. Enfin, c'est pas l'abbaye de Thélème rabelaisienne, mais l'endroit est présenté de manière idyllique. Et quand on lit cela, on se dit, mon Dieu, voilà un programme bien ambitieux. Est-ce que cela a toujours été cela, au début peut-être?
Alors, en fait, il existe effectivement une brochure qui a été écrite avec des gens respectables qui, de ce moment-là, qui était par exemple l'aliéniste de l'asile d'Auxerre, le médecin aliéniste principal qui a écrit une lettre de recommandation comme quoi il fallait que cet établissement existe. Tout le comité directeur, en gros, de l'institut éducatif et sanitaire, donc est constitué de ce monsieur-là, d'un inspecteur de la Seine qui écrit également des recommandations. Donc,
et puis il y a des politiques aussi.
Et aussi des politiques
le qui, conseil général
exactement,
de Lyon,
qui, enfin, il y a le qui sont présents. Et donc on est bien dans toute la suite et toute la veine de la philanthropie de fin du 19e, où l'idée est de donner aux enfants qui pourraient être des enfants perdus une bonne éducation pour qu'ils deviennent des bons citoyens français avec des mœurs etc. Bien éduqués et dans la norme. Donc on est dans cette logique là qui a certainement pu donner des résultats qui au départ est plutôt un cercle vertueux en fait d'éducation et ça peut être aussi répressif, mais il y a toute une ligne entre l'éducatif et le répressif. Donc ça c'est le départ. Seulement, les failles, comme on a pu le voir par rapport au contrôle, par exemple, de l'assistance publique, ou ça c'est aussi un historien qui le dit, Yvan Jablonka, qui a écrit sur l'assistance publique, dit finalement, il y avait une certaine hypocrisie de la part de la Troisième République à créer des instituts comme ça, ou à les financer, parce qu'ils savaient très bien qu'au moins, finalement, le financement n'était pas suffisant par enfant, et qu'on arrivait, finalement, la prise en charge n'était pas suffisamment financée, quoi. Donc, à un moment, les propriétaires qui montaient ce genre d'institut se trouvaient bloqués parce qu'ils n'arrivaient pas à prendre suffisamment soin des enfants. Donc, il y a quelque chose qui se met en place là. D'autant plus que la propriétaire donc des Vermiraux et l'inspecteur donc Landrin de l'agence de la Seine-et-Marne, de la Seine-et-Oise à Avallon, avaient bien l'intention de profiter de ce système-là et de ces failles-là. Donc eux, ils ont pris de plus en plus d'enfants, s'en sont occupés de moins en moins et ont récupéré leur argent. Il y avait de la maltraitance par abandon, ils ne les nourrissaient pas, ils ne les vêtissaient pas, toutes les vêtures, etc. ne leur revenaient pas. Donc il y avait bien cette volonté de capter à un moment un système. Donc là on est bien sur une économie réelle financière.
Donc cela rejoint le sous-titre de votre livre, hein, « Approche d'une économie des secrets ». C'est-à-dire que finalement, tout le monde savait à Carré-les-Tombes, tout le monde connaissait la vérité.
Alors,
apparemment.
En fait, le système était Carré-les-Tombes, et il y a une... En tous les cas, les Vermiro existaient, Mme Soliveau existait, donc il y avait...
Donc Mme Soliveau, alors pour nos auditeurs, donc c'est la directrice propriétaire.
Voilà, des Vermiro, donc effectivement la population locale le connaissait.
Ah oui, parce que, pardonnez-moi, je vous interromps Emmanuel, oui. Je vous prie de m'excuser, mais votre livre s'ouvre sur une soirée à laquelle vous avez assisté en avril 2005, et même l'heure est donnée, il est 21h30, et trois habitants de Carré-les-Tombes, dans cette salle de mairie, participent à une soirée de restitution et vous rapportez leurs propos. Tout le monde le savait, comme ça se passait au Vermiro. Tout le monde le savait, aussi bien les maires que les gendarmes que le curé, tout le monde le savait, personne ne disait rien.
Oui, l'ambition modeste de ces travaux, c'était de montrer que quelque part, il existait des bénéfices à ce que ce système perdure à différentes échelles. Donc, à un moment dans l'histoire des Vermiro, il y a une affaire de qu'on appellerait aujourd'hui de pédophilie avec un gardien.
Donc, c'est le gardien Paul Larèche qui a une trentaine d'années.
Oui, c'est ça, il y aura un procès, mais il y aura qui finira sur un non-lieu. Donc l'idée, c'est bien de dire, par exemple, ce gardien a des bénéfices intimes à assouvir des perversions, une perversion sexuelle. Il sert de gardien pas cher, pas trop payé à Madame Soliveau, qui elle a un bénéfice de groupe, donc personnel, à s'enrichir sur le dos des institutions et des enfants. Et si on regarde donc les fermiers alentours chez qui on place des enfants à moindre coût que le coût du travail normal, ont plutôt intérêt à ne pas dénoncer ça. Et d'autant plus que Landrin disait « si vous parlez, je ne vous donne plus d'enfants ». Donc il lui aussi avait exercé du chantage, il l'a fait pendant tout le procès, etc. Et puis l'assistance publique qui finalement, elle, était dans sa fonction d'essayer de tirer de l'abandon des enfants et de les éduquer. C'est toujours ce que je disais, on est loin de Paris, on est loin de l'administration centrale, on est au début du siècle. Donc les choses étaient... Donc on voit bien qu'il y a des bénéfices finalement qui peuvent perdurer et s'installer à différentes échelles dans un effet de système. Ma volonté n'était pas du tout une volonté de condamnation dans mon travail, mais c'était bien de regarder comment une institution privée a pu manipuler quelque part des volontés politiques de la Troisième République et des volontés de société pour s'enrichir et assouvir différents types en fait de bénéfices.
Tout doucement, sans parler, sans pudeur. prendre un enfant sur son cœur, prendre un enfant dans ses bras. Mais pour la première fois, verser des larmes en étouffant sa joie, prendre un enfant contre soi. S'endorme à la tombée du jour, prendre un enfant par l'amour, prendre un enfant comme il vient et consoler ses chagrins, vivre sa vie des années, puis soudain prendre un enfant par la main. En regardant tout au bout du chemin, prendre un enfant pour le sien.
Plus proche de vous, partout, pour vous, Radion, au cœur de la Bourgogne.
Prendre un enfant par la main. Magnifique chanson et poème d'amour en hommage aux enfants. C'était, vous l'aurez reconnu, Yves Dutheil en 1977. Retour à la révolte des Vermiraux avec l'invité de Wagon Livre. Nous accueillons effectivement ce soir Emmanuel Jouet et nous évoquons les Vermiraux, cet institut spécialisé installé sur la commune de Carré-les-Tombes à quelques kilomètres d'Avallon. Institut spécialisé où se commirent, il y a plus d'un siècle maintenant, de terribles maltraitances sur des enfants. Il faut bien souligner, Emmanuel Jouet, que les Vermiraux accueillent essentiellement les garçons, tandis que les filles, elles, se trouvent sur le site de l'abbaye de la Pierre-qui-Vire. Alors, à l'abbaye de la Pierre-qui-Vire, là aussi, il y aura des baléros, c'est-à-dire que Landrin va organiser des soirées ou des... Alors, on ne sait pas qui venait à l'abbaye de la Pierre-qui-Vire profiter des petites filles.
Alors, Donc, là, ce qui s'est passé au niveau de l'abbaye de la Pierre-qui-Vire, c'est que... donc, ça, c'est dans le réquisitoire écrit. Donc, dans les archives, on retrouve ces traces-là. Donc, c'est le procureur qui écrit... Le juge qui l'écrit et qui dit donc que... il y a une loi en 1904, une grande loi en termes sur l'éducation, qui dit qu'il faut séparer les enfants des garçons. Donc c'est à ce moment-là que les filles qui devaient être aux Vermiraux jusque-là sont séparées. Et donc il se trouve effectivement que l'abbaye de la Pierre-qui-Vire a été délaissée par les moines et que Monsieur Landrin va louer l'abbaye de la Pierre-qui-Vire pour pouvoir mettre les filles et créer des ateliers des ouvroirs, etc., des ateliers de couture et des classes. Et on apprend assez rapidement donc dans le réquisitoire qu'en 1905 elle va être fermée puisque il y a une des jeunes femmes qui va se suicider pour cause. Donc c'est très assez elliptique dans le réquisitoire, mais c'en est les traces. Donc on comprend que c'est de la pédophilie et donc c'est fermé. Le préfet ferme l'abbaye de la Pierre-qui-Vire. Les filles sont envoyées à Avallon, route de l'Orme, et donc à ce moment-là, on se retrouve avec donc la maison des Vermiraux va recouvrir à la fois les garçons qui sont sur le lieu dit, l'institut de la route de l'Orme à Avallon, et également donc il y avait deux autres lieux qui étaient à Moulin-Collat et en la ferme de Mont à Carré-Letton.
Alors, je disais qu'il y a eu un grand nombre de signes avant-coureurs qui vont mener les enfants à déposer une plainte collective, déjà en 1909, le 5 mars 1909, une plainte donc collective est déposée par les enfants. Et alors là, comment réagissent les autorités face à ce dépôt de plainte collective?
Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'était que c'était, il y avait assez régulièrement des évasions qui se faisaient, effectivement les enfants commencent à, comme vous dites, il y a un peu des signes comme ça où les enfants disent eux-mêmes ou commencent à manifester leur volonté de ne plus rester au Vermiro. Moi j'ai retrouvé des textes où on en voit, les enfants disent, où c'est écrit qu'ils préfèrent, qu'ils décrivent au préfet en disant je préfère retourner en prison plutôt que rester là. Et donc en 1909 c'est l'affaire Larèche, avec ce gardien qui, pour lequel il va y avoir un peu c'est des actes de pédophilie qui se passent là. Il va y avoir une enquête et un procès qui finira en non-lieu.
Ce qui est surprenant tout de même, Emmanuel Jouet, parce que vous reproduisez dans votre livre, dont je rappelle le titre, La révolte des enfants des Vermiro aux éditions L'Œil d'Or, vous reproduisez tout de même les déclarations d'un certain nombre de jeunes gens qui étaient alors au Vermiro, notamment Charles Auvray, enfant de l'assistance publique de l'heure, a déclaré, alors là je vais être un peu cru dans le langage, mais c'est dans le livre, qu'il y a longtemps, pour la première fois que Larèche l'a enculé, ce fait s'est renouvelé beaucoup de fois. Il le faisait entrer dans une cellule, le faisait coucher sur le dos sur le lit, le déculottait, puis il se couchait sur moi, lui introduisait son membre par-dessous les parties. Un peu plus loin, Charles Legrand, 19 ans, enfant assisté de la Meuse, a déclaré qu'il y a plusieurs mois, le gardien Larèche est entré la nuit dans sa cellule et lui a dit de lui taper la queue. Il a d'abord refusé, mais il lui a donné du tabac et il a fini par lui faire ce qu'il désirait. Il lui donnait quelques sous pour ma peine, des cigares ou du tabac. Il n'a jamais voulu dire ces choses à Madame Gadon. Et puis, il y en a d'autres. Jules Prugnot, 19 ans et demi, détenu au Vermiro, a déclaré qu'un matin, qu'il faisait les dortoirs, il y a de cela plusieurs mois, le gardien Larèche l'a invité à le taper. Il a refusé, mais il l'a saisi sous le bras et emporté dans une cellule où il l'a déculotté et fessé. C'est quand même incroyable de se dire que ces enfants ont déclaré de telles choses à l'égard d'un gardien, et que la justice, finalement, a fermé un peu les yeux.
Vous replacez 100 ans auparavant.
Oui.
Donc on n'est pas du tout sur les mêmes valeurs par rapport à la pédophilie. C'est un mot qui n'existe pas. Les choses ne sont pas du tout une véritable évolution, et heureusement, dans l'évolution des mœurs et de la condamnation de ce genre d'actes aujourd'hui. Donc, effectivement, il faut juste recadrer ça historiquement. Il n'y a rien. Voilà, la normalité par rapport aux actes, aux abus sur les enfants a totalement évolué. Les mœurs ont changé et la loi a tout à fait changé, heureusement.
Il y a un siècle, on est dans une morale de l'enfermement. On ne trouve pas choquant, par exemple, d'enfermer 7-8 jours des enfants dans un cachot. Alors qu'au Vermiro, on apprendra que certains enfants ont été enfermés plus de 3 semaines.
Non, normalement, il y a une loi qui dit, je pense que c'est beaucoup moins. Hein, il y a une loi effectivement, si un enfant a été puni, il doit faire du cachot, et c'est un nombre.
J'avais noté 8 jours autorisés.
Oui, c'est possible. Donc ça, c'est c'est la loi qui le dit. Et effectivement, après, dans le procès, on apprend qu'il y a ce genre de dérive dans l'enfermement. Par rapport à la logique de l'enfermement, on est à un moment assez charnière dans l'éducation et la répression d'une délinquance des mineurs. C'est-à-dire qu'on sort du 19e siècle, qui a été plutôt dans cette logique de l'enfermement, avec sous couvert d'une politique d'éducation et de répression aussi. Je renvoie à Foucault dans tous ses travaux sur la prison. Et là, on est à un moment charnière où on va se rendre compte que l'enfance n'est pas simplement une enfant dangereuse qui menace la société, mais l'enfant est aussi à protéger. protégés. Et les Vermiro sont, le procès des Vermiro à cet égard est un moment important. Parce que, on reviendra sans doute là-dessus, mais parce que les condamnations vont prouver que les actes et les abus que les enfants ont subis vont être condamnés réellement.
Il n'a pas de père et il n'a pas de mère. C'est le plus frondeur de tout l'orphelinat. On cite en exemple son sale caractère et on le punit car on ne l'aime pas. Qu'il soit un démon, qu'il soit noir ou blanc, il a le cœur pur, il est toute innocence. Qu'il soit né d'amour ou par accident, malheur à celui qui blesse un enfant. Il vole au marché un gâteau, une orange, et on le poursuit, il faut le rattraper. On donne l'alerte, on arrête un ange, et pour se défendre, il se met à pleurer. Qu'il soit un démon, qu'il soit noir ou blanc, il a le cœur pur, il est toute innocence. Qu'il soit né d'amour ou par accident, malheur à celui qui blesse un enfant. Il est émigré d'un pays de misère, et dans une école, il apprend à parler. Son accent fait rire, il ne peut rien faire sans qu'on lui reproche d'être un étranger. Qu'il soit un démon, qu'il soit noir ou blanc, il a le cœur pur, il est toute innocence. Qu'il soit né d'amour ou par accident, malheur à celui qui blesse un enfant. Qu'il soit un démon, malheur à celui qui blesse l'enfant.
Wagon Livre, ce soir sur Radion, revient sur la révolte des enfants des Vermiro. Nous sommes en compagnie d'Emmanuel Jouet, qui donc a fait paraître un livre consacré à cette révolte des enfants des Vermiro, livre sous-titré « Approche d'une économie des secrets 1905-1910 ». Emmanuel Jouet, avant que ne s'ouvre le procès de l'affaire des Vermiro au tribunal d'Avallon en 1911, il y a donc maintenant un siècle, il y a donc eu effectivement une dégradation terrible des conditions de vie de ces enfants. Alors, je vais les lister rapidement, on ne va pas rentrer dans ce gratin de l'horreur, dans les abandons, la maltraitance, le détournement d'argent des pensions, des enfants tout de même exploités un peu par tout le monde, aussi bien dans les fermes des Vermiro que par les paysans finalement du canton de Carré-les-Tombes, de longues punitions de pain sec par raison d'économie, des conditions de détention en cachot absolument déplorables, nourriture insuffisante, viande pourrie, légumes également pourris, soupe sentant le pétrole, le phénol et aussi le purin. Le pain manquait, les vêtements n'étaient jamais renouvelés. D'ailleurs, quelqu'un dit, une personne non prévenue, donc qui arrivait au Vermiro, se serait crue dans l'île de Robinson. On ne parle pas de l'hygiène, l'absence de soins, une infirmerie complètement délabrée. Et d'ailleurs, le beau-frère de Armand Landrin, qui est ce sous-directeur des Vermiro, le beau-frère de Landrin, qui est docteur, a dit, il n'y a que les animaux qui sont soignés ici. Bref, l'horreur absolue, et des enfants vont s'évader, la vérité va enfin arriver aux oreilles des autorités judiciaires. Il y a une instruction qui est mise en place, qui va durer finalement presque un an, et le 18 juillet 1911 s'ouvre donc à Avallon le procès de Madame Soliveau, directrice des Vermirot, et de son sous-directeur adjoint et complice, oserais-je dire, Armand Landrin. Alors la presse va alors prendre fait et cause pour les enfants.
Oui, je vais juste revenir par rapport à ce que vous avez dit sur l'exploitation des enfants dans les fermes du canton de Carré-les-Tombes. Je n'ai jamais été dans la volonté de stigmatiser particulièrement les fermes, les accueils des familles nourricières de Carré, parce que ce n'est pas du tout le cas. En fait, on est dans un système général de l'assistance publique. Il faut le recadrer absolument dans quelque chose de collectif et pas vraiment je me refuse à dire à condamner. On n'est pas là-dedans. Concernant le procès. Le procès, en fait, il va avoir lieu, à mon sens, essentiellement à cause de deux choses. C'est donc les enfants, effectivement, qui se révoltent. Donc, il y a une révolte qui vont alarmer les gendarmes, etc., qui vont venir sur place. Donc, et le juge d'instruction qui va commencer qui va ouvrir une instruction à charge contre les enfants au départ. Et puis il va rester, les gendarmes vont rester sur place, et puis ça va un peu encore rebouger le lendemain. Et donc le juge va revenir et il va se rendre compte que finalement ce ne sont pas les enfants qui sont à condamner, mais plutôt les propriétaires. Et c'est là qu'il va changer en fait son instruction et qu'il va mettre donc une instruction à charge contre les propriétaires et en défilant les complicités en allant jusqu'à Monsieur Landrin. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, certainement, pour laquelle le procès est allé au bout, c'est que le juge d'instruction s'est rendu compte qu'il y avait malversation financière, c'est-à-dire que l'État avait été spolié. Donc il y a une suspicion que l'argent qui était cet argent de l'État, de l'administration pénitentiaire des services publics, a bien été pris par des individus et de façon personnelle par enrichissement personnel. Donc c'est pour ça qu'il y a eu, à mon sens, qu'il y a eu certainement une condamnation et un procès qui va jusqu'au bout. Parce que des histoires de violence à enfants, que ce soit dans des histoires de famille ici, dans le Morvan ou ailleurs à ce moment-là, et ou dans des histoires de violence à enfants dans les institutions, qu'elles soient catholiques ou publiques, existaient et les condamnations étaient peu élevées, en tous les cas par rapport à ce qu'on trouve dans les condamnations des Vermirot.
Le débat, pendant ces 5 jours de procès en juillet 1911, donc au tribunal d'Avallon, c'est d'essayer de définir la différence entre la répression légale qui est donc permise et la brutalité, enfin ce que vous appelez, vous, la surviolence. Mmh. Peut-être vous ai-je mal lu ?
Non, c'est ça, c'est un terme employé par des sociologues, donc dans les années 60, justement dans des recherches sur des institutions d'accueil en France.
Mais que veut donc dire cette surviolence physique et psychologique ?
Oui, c'est dire que... Donc, encore une fois, on est il y a 100 ans, donc méfions-nous de l'illusion rétrospective et de la représentation qu'étaient les enfants. Quelle représentation avions-nous des enfants et que la société avait des enfants ? L'enfant était davantage en fait un adulte miniature, qui était plutôt à redresser, à qui il fallait inculquer des bonnes valeurs. Et le fait de l'utilisation de la violence physique était habituelle. Si vous demandez à vos grands-parents ou à des personnes de 80 et quelques années aujourd'hui, et si elles veulent bien vous en parler, c'est le fait d'être frappé était quelque chose de commun. Donc dans les Vermirot, il n'y a pas simplement la gifle parce qu'il y a une bêtise de fait, etc. Il y a un effet de système de ne pas s'occuper de privation de soins et de violence qui font que on est au-delà de quelque chose d'accepté par la société. Et c'est parce que cette norme a été dépassée que le procès a lieu.
Le tribunal d'Avallon s'avère rapidement trop petit, oui, pour un événement qui va devenir nationale. Cette affaire des Vermirons, en fait, il faut bien se dire que c'est une affaire qui va être exemplaire. Alors, vous l'avez dit aussi bien au niveau des condamnations, puisqu'il y aura des condamnations de prison ferme, oui, ainsi que des amendes. Il y a aussi le fait que la parole est confiée aux enfants qui défilent devant le tribunal.
Alors, la première chose sur l'effet d'une affaire nationale, on arrive au moment de... C'est pareil, on est dans le moment où la presse quotidienne commence à sortir des affaires. On commence à être aux grandes heures de la presse écrite, régionale et nationale. Et donc, il y a un journaliste du journal L'Éclair, Gabriel Latouche, qui va venir assez rapidement. Je n'ai pas retrouvé comment il a entendu parler de cette affaire. En tous les cas, il en a entendu parler. Il est à Paris et il vient sur place dès janvier 1910, donc au moment de l'instruction, faire son enquête à lui, et il écrira quelques 5 à 6 articles très, très, très renseignés sur l'affaire, et il suivra sur le procès. C'est à partir des écrits de Gabriel Latouche que les autres journaux vont reprendre. Il y a Le Figaro qui le reprend, on a un croquis du procès par l'Excelsior, donc il y a des images, des gravures qui ont été faites. Donc oui, c'est une affaire qu'on dirait médiatique aujourd'hui, avec les supports de presse. Il y a la prise en compte de la parole. Je ne suis pas sûre que... ça, c'est à revérifier. Je n'ai pas pu tout vérifier. Ce qui est sûr, c'est que les enfants ont été interrogés par le juge d'instruction et leur parole a été redite au tribunal. Je ne suis pas sûre qu'ils aient forcément été
qu'ils aient défilé à la barre.
Mais en tous les cas, ils ont parlé et leur témoignage a été recueilli.
Nous reviendrons sur les sanctions exemplaires que prononcera le tribunal d'Avallon à l'encontre des responsables de l'Institut des Vermirons. Je rappelle que nous sommes ce soir en compagnie d'Emmanuel Jouet, auteur du livre intitulé « La révolte des enfants des Vermirons » publié aux éditions de l'Œil d'Or, et nous vous laissons en compagnie des frères Jacques. Ils interprètent un poème de Jacques Prévert, « La chasse à l'enfant », inspiré par la mutinerie d'enfants en août 1934 à Belle-Île-en-Mer. Les moniteurs de Belle-Île-en-Mer avaient tabassé un pupille, provoquant le soulèvement et la fuite des jeunes détenus. Une prime de 20 francs était alors offerte à quiconque capturait un fugitif. Cette mutinerie déclencha une campagne de presse demandant la fermeture de bagnes d'enfants. Voici donc « La chasse à l'enfant ». Les frères Jacques, un enregistrement de mars 1957.
Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a c'est que ces hurlements. C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit, j'en ai assez de la maison de redressement. Et les gardiens à coups de clé lui avaient brisé les dents. Et puis il l'avait laissé étendu sur le ciment. Bandit, voyou, voleur, schnappant, maintenant il s'est sauvé. Et comme une bête traquée, il galope dans la nuit. Et tous galopent après lui, les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes. Bandit, voyou, schnappant, c'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Pour chasser l'enfant, pas besoin de permis. Tous les braves gens s'y sont mis. Qu'est-ce qui nage dans la nuit? Quels sont ces éclairs, ces bruits? C'est un enfant qui s'enfuit. On tire sur lui à coups de fusil. Voleurs, ces messieurs sur le rivage, sombre, douille et vert de rage. Bandit, voyou, voleur, schnappant, rejoindras-tu le continent? Au-dessus de l'île, on voit des oiseaux.
Le procès se termine le 22 juillet 1911 au tribunal d'Avallon et des condamnations extrêmement sévères pour l'époque, vu les faits, sont prononcées. Donc d'abord à l'égard de Madame Soliveau, la propriétaire des Vermiraux et qui en était la directrice, elle est condamnée à 3 ans de prison et 2000 francs d'amende. Armand Landrin, qui lui était donc agent de placement des enfants et sous-directeur des Vermiraux, est condamné lui à 2 ans de prison et 2000 francs d'amende. Et puis il y a Rosine Delcipèche, alors elle c'était une surveillante je crois, elle est elle-même passée par les Vermiraux, c'est
oui,
une ancienne...
Si on osait une métaphore audacieuse, elle est capot en gros, Rosine Delcipèche, c'est une enfant qui était elle-même dite arriérée, et donc elle est restée, elle n'a pas été placée ailleurs, elle n'est pas allée travailler, mais elle a été utilisée par Madame Soliveau pour surveiller des enfants, et comme elle n'avait aucune... idée de ce qu'était l'éducation, et elle reproduisait en fait ce qu'elle avait subi elle-même, donc elle a été très, très violente physiquement.
L'heure tourne, Emmanuel Jouet, et il faut tout de même s'intéresser à ce que sont devenus, j'allais dire presque ces bourreaux d'enfants. D'abord Armand Landrin. Alors Armand Landrin, lui, était condamné, je l'ai dit, à 2 ans de prison, 2 ans de prison qu'il ne fera jamais.
Oui, en fait, j'ai retrouvé dans son état civil, il a été le père d'un... Son fils est mort au combat pendant la Première Guerre mondiale, et donc il y a dû avoir une loi d'amnistie pour les personnes condamnées dont les enfants étaient morts au combat tout de suite après. Donc il se trouve, je ne sais pour quelle raison, mais Landrin était quelqu'un qui avait des accointances nationales. Donc il n'a pas fait de prison. Il avait fait appel en 1912. L'appel a été donc jugé en 1912, mais bon, à ce moment-là, il avait encore de la prison qui était sanctionnée. Il va jusqu'en 18 sans faire de prison, et il n'en fera pas. Donc, et il va mourir tranquillement donc dans Charente.
En 1953, voilà. Très précisément.
Et puis Madame Soliveau, elle a fait de la prison, et elle est revenue chez elle, et elle a vécu entre deux guerres, donc à Carré-les-Tombes. Elle a mis en métairie la ferme, et puis en location, il y a eu quelques pensionnaires.
Que reste-t-il des Vermiraux aujourd'hui à Carré-les-Tombes ?
C'est une maison secondaire donc, qui a été rachetée. Il y a eu plusieurs propriétaires depuis.
Alors, je ne peux qu'encourager nos auditrices et auditeurs à se procurer votre livre, qui est le fruit d'un long travail de recherche, 10 bonnes années.
Oui, c'est à peu près
ça. Osez le dire, La révolte des enfants des Vermiraux d'Emmanuel Jouet, aux éditions L'Œil d'Or, dans la collection Mémoires et Miroirs, avec une postface d'Olivier Lasvergnas, et puis des illustrations, gravures de Sarah Dayer, j'ai bien prononcé, et un livre qui revient, alors évidemment, sur l'aspect plus ethnologique, une réflexion à la fin du livre, sur cette économie de marché infantile locale, sur d'autres révoltes d'enfants, qui survinrent dans les années 30 à Maitrey. Alors quand on pense à la colonie pénitentiaire de Maitrey, on pense à Jean Genet inévitablement, ou encore Belle-Île-en-Mer, qui n'est pas le coin, n'a pas toujours été sans doute le coin aussi charmant qu'il peut être actuellement dans le Morbihan. Vous parlez aussi du poème de Prévert, La chasse aux enfants, qui lui a été inspiré par cette horreur de la récompense qu'on accordait à des adultes pour capturer ces enfants qui avaient fui ces instituts. Et puis vous évoquez un tout petit peu l'actualité, parce qu'il y a encore de la maltraitance, hein, bon, il est question de l'Irlande et de ses prêtres pédophiles, ou même dans Lyon, rappelons-le, malheureusement, le centre du Gué de Soleil à Auxerre, qui de 1980 à 2000 a fourni des victimes handicapées. Enfin, on évitera de revenir sur ces choses terribles et dont il faut parfois parler pour atteindre aussi la vérité et la lumière. Éclairage que vous avez apporté ce soir sur cette sinistre affaire. Un dernier petit mot.
Oui, si je peux me permettre, c'était il y avait une volonté vraiment de ma part de travailler avec les populations. Ça a été un travail délicat parce qu'on aborde des sujets, comme vous l'avez dit, extrêmement délicats, qui de mémoire enfouie. Il faut dire que suite à la thèse et à ses travaux, un metteur en scène, Serge Chandor, s'est emparé de ces faits et nous avons monté avec des populations de Carré-les-Tombes et d'Avalon une pièce qui s'appelle Les Enfants des Vermiraux et qui a été jouée pendant une semaine au début de l'été et qui a fini à Carré-les-Tombes dans la salle municipale de Carré-les-Tombes avec par exemple la chorale de Carré-les-Tombes qui est venue chanter et qui faisait partie du spectacle. Il y avait une véritable volonté de notre part et de volonté à la fois des participants et des créateurs de donner un esthétisme et de sublimer en fait quelque chose de difficile dans un travail afin de regarder une mémoire délicate et de souffrance, de la regarder en face et d'avancer dans un travail de cicatrisation mémorielle. Et je crois qu'on a réussi à faire ça.
Merci Emmanuel Jouet d'avoir été notre invité ce soir. Merci. Sur Radion. Je rappelle donc le titre de votre livre, La révolte des enfants des Vermiraux, aux éditions de L'Œil d'Or, collection Mémoires et Miroirs. Merci. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Quelques manifestations culturelles avant de nous séparer. Tout d'abord, ce vendredi 2 décembre, à partir de 19h30, dans le cadre de son cycle Les Vendredis, le Théâtre d'Auxerre organise une lecture d'extraits de Rouge Gueule d'Étienne Lepage, auteur québécois. Ces extraits seront lus par Grégoire Courtois. L'entrée est libre et c'est donc à partir de 19h30, ce vendredi, au Théâtre d'Auxerre. Je rappelle aussi la très belle exposition autour de Colette qui se tient jusqu'au 8 janvier 2012 au cellier de l'abbaye Saint-Germain. Là aussi, c'est donc à Auxerre. L'entrée est gratuite. Il s'agit d'une exposition qui a pour titre « Colette, je vais écrire encore, il n'y a pas d'autre sort pour moi ». Une très belle exposition dont on aura l'occasion de vous parler plus longuement dans un wagon-livre spécial avec Françoise Duvernier, conservateur en chef de la Bibliothèque municipale d'Auxerre. Ce sera le 14 décembre prochain à partir de 21h sur les ondes de Radion. Toujours à l'abbaye Saint-Germain, une exposition absolument remarquable autour de cartes postales de métiers disparus, de métiers ruraux dans Lyon. Il s'agit d'une collection de cartes postales qui ont été fournies par les membres du bureau du club Cartophile de Lyon. C'est une exposition qui est visible donc à l'abbaye Saint-Germain jusqu'au 15 janvier 2012. Elle est intitulée « Les métiers ruraux dans Lyon au tournant du XXe siècle ». Une très belle exposition avec des cartes postales qui ont été grossies au format 21-29-7 pour plus de confort. C'est absolument remarquable et très touchant. Donc, les métiers ruraux au tournant du XXe siècle en cartes postales. C'est à l'abbaye Saint-Germain jusqu'au mois de janvier 2012. L'entrée est gratuite. Et puis, le samedi 3 décembre, toujours autour de Colette, Samia Borgi donnera une conférence qui aura pour thème « Colette et le journalisme ». Samia Borgi est responsable du centre d'études Colette et cette conférence se tiendra samedi 3 décembre à 15h à l'auditorium de la bibliothèque Jacques Lacarrière. Et puis le samedi 3 décembre à 9h30, c'est à la bibliothèque Sainte-Geneviève, des histoires pour les petites oreilles, un moment tout en album et en comptine pour les enfants de 0 à 3 ans, mais aussi pour leurs parents. Eh bien, mercredi prochain, dans Wagon Livre, cette fois-ci sur Radion, un invité exceptionnel, puisque nous vous proposerons l'entretien enregistré lors du Salon du Livre de Migennes avec le comédien et romancier Richard Bohringer. Il sera question de son roman « Les nouveaux contes de la cité perdue » paru aux éditions Flammarion. Ce sera mercredi 7 décembre prochain à 21h, donc en compagnie de Richard Bohringer. Et c'est sur Radion. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite une excellente fin de soirée. À très bientôt. Merci de votre fidélité.